Laudetur Jesus Christus.
Le message du pape pour la prochaine journée missionnaire mondiale est connu. En cette année jubilaire, il est centré sur l'espérance dans un monde qui en a cruellement besoin. Nous y revenons en détail au début de ce journal. 2 ans après le séisme meurtrier dans le sud de la Turquie, journée de commémoration ce jeudi, nous entendrons l'aspiration d'une jeune Turque installée à Ankara qui souhaite revenir sur sa terre natale. Dans ce journal, direction également Mossoul en Irak, où grâce au soutien de l'UNESCO, le patrimoine culturel et historique de la ville a pu renaître de ses cendres. Et puis nous irons aussi en Thaïlande où les autorités ont coupé l'électricité à plusieurs zones qu'elle alimentait en Birmanie voisine avec un objectif: lutter contre les centres d'arnaque en ligne installés dans la région.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples, c'est le thème de la prochaine journée missionnaire mondiale qui aura lieu le 19 octobre prochain. Dans le cadre du jubilé de l'espérance, le pape a dévoilé son message à cette occasion, rappelant que les missionnaires doivent être des constructeurs d'espérance dans des sociétés qui en manquent cruellement. C'est par la prière, l'Eucharistie et la vie communautaire qu'ils pourront aller de l'avant. Xavier Sartre, c'est une feuille de route que le pape adresse.
Oui, une feuille de route avec une boussole tout d'abord. Jésus, divin missionnaire de l'espérance, le modèle suprême, affirme François. Et c'est par ses disciples qu'il se penche encore sur chaque personne pauvre, affligée, désespérée et rongée par le mal. C'est par l'Église, bien sûr, qu'il agit aussi. L'Église qui offre sa vie pour tous, tout en faisant face aux persécutions, aux tribulations, aux difficultés, à ses propres imperfections et chutes dues aux faiblesses de chacun de ses membres. C'est elle qui prend en charge le cri de l'humanité. Tous ses membres sont ainsi invités à faire briller l'espérance du Christ en tous les coins de la terre, et notamment dans les zones les plus développées qui souffrent d'une crise de l'humain, dont les symptômes sont un sens diffus de désarroi, de solitude et d'abandon des personnes âgées, de difficulté à trouver de la disponibilité au secours de ceux qui vivent à côté. Le pape regrette ainsi la disparition de la proximité. Nous sommes tous interconnectés, mais nous ne sommes pas en relation, constate-t-il. Or, l'évangile vécu dans la communauté peut nous rendre une humanité intègre, saine et rachetée.
Et alors, pour accomplir cette mission d'espérance, Xavier, quels sont donc les moyens dont on dispose?
Eh bien, tout d'abord, le cœur du Christ, à la source duquel on peut puiser pour apporter aux autres la même consolation par laquelle nous sommes consolés par Dieu. Il y a également le renouvellement de la spiritualité pascale que nous vivons à chaque célébration eucharistique et dans laquelle on va puiser le zèle, la détermination et la patience pour travailler. Autre moyen détaillé par le pape, la prière. Enfin, François rappelle que l'évangélisation est toujours un processus communautaire qui continue avec la construction des communautés chrétiennes à travers l'accompagnement de chaque baptisé sur le chemin de l'évangile, car l'appartenance à l'Église, Olivier, n'est jamais une réalité acquise une fois pour toutes.
Xavier Sartre, merci beaucoup. Le credo de Nicée-Constantinople, trait d'union entre tous les chrétiens. En cette année du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de l'Église, le pape a ce matin reçu à la résidence Sainte-Marthe une vingtaine de prêtres et de moines orthodoxes orientaux. Dans un discours consigné, François rappelle l'importance de cette prière symbole et fondamentale. Les chrétiens doivent encore diviser, sont comme des petits morceaux qui trouvaient leur unité, indique le Saint-Père, qui n'a jamais fait mystère de son intention de se rendre en Turquie cette année pour célébrer cette date phare du christianisme du 20 mai 325 à Nicée. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver sur notre site vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, l'inquiétude toujours plus grande des Gazaouis, alors que le ministère israélien de la Défense a annoncé ce matin avoir ordonné à l'armée de préparer le départ volontaire des Palestiniens de l'enclave, conformément à la volonté américaine. Nous y reviendrons en détail dans notre édition à 18h. À Gaza, où depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, plus de 10 000 camions d'aide humanitaire ont pu rentrer, a annoncé l'ONU. Selon l'État hébreu, des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et d'autres qui ont porté de fausses accusations contre Israël en raison de ces opérations à Gaza sont légalement tenus de permettre à tout habitant de Gaza d'entrer sur leur territoire. Réponse cinglante du chef de la diplomatie espagnole tout à l'heure. Gaza doit faire partie du futur État palestinien. Je vous en parlais en titre, c'était il y a tout juste 2 ans, le 6 février 2023. En Turquie, un violent séisme suivi d'un autre quelques heures plus tard. Près de 54 000 morts, 107 000 blessés, des centaines de milliers de déplacés à travers 11 provinces du sud du pays. 2 ans plus tard, la plupart des rescapés attendent toujours d'être relogés. Environ 600 000 d'entre eux vivent dans des cités-conteneurs érigées par l'État. D'autres ont trouvé par leurs propres moyens un logement provisoire ailleurs. À Ankara, la capitale turque, notre correspondante Anne Andlauer a rencontré Emel. Elle est originaire de la province d'Hatay, la plus détruite par le double séisme. Et malgré des souvenirs douloureux, elle a hâte de rentrer chez elle.
Sur l'écran du téléphone, Emel Oroz montre une photo de son ancien quartier. C'est le centre-ville d'Antakya. La photo est récente, prise depuis un drone. On y voit des dizaines de grues et d'immeubles en chantier. Là, dit-elle, c'était chez nous. Le bâtiment de 3 étages s'est écroulé en quelques secondes. Son mari Antoine est mort. Ses 2 filles ont été gravement blessées. Depuis 2 ans, Emel vit à Ankara. Mais elle n'a qu'une idée en tête.
Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas rester ici, être locataire. Je ne connais personne. Et puis, je veux pouvoir me rendre sur la tombe de mon mari. Mes proches, presque tous mes cousins, sont encore là-bas, dans les villages.
L'immeuble où habitait Emel appartenait à sa belle-famille. Après le séisme, l'État a saisi leur titre de propriété et construit à la place un bâtiment de 6 étages. Emel et ses proches auront droit à la moitié, mais il va falloir payer à crédit 40% du prix des 6 appartements. Combien ? Quand ? Elle n'en sait rien, mais elle rentrera. Car pour Emel, qui est arménienne, ce n'est pas seulement une maison, c'est aussi une culture, la culture plurielle du Hatay qu'il faut perpétuer.
On a encore des églises là-bas, à Samandak. On a nos souvenirs, notre histoire. Aucun Arménien n'abandonnera Hatay. Ce qui a changé, ce sont les immeubles. Mais notre culture, elle, survivra.
Selon les autorités turques, à ce jour, plus de 40 000 logements ont été reconstruits à Hatay, sur environ 200 000 dans toute la région du séisme. À Ankara, à Andoua pour Radio Vatican.
C'est un patrimoine qui renaît de ses cendres, celui de Mossoul dans le nord de l'Irak. La vieille ville occupée par Daesh jusqu'en 2017 a été fortement détruite et grâce aux efforts de l'UNESCO, pas moins de 130 édifices ont pu être reconstruits. C'est le cas en particulier du célèbre minaret de la mosquée Al-Nouri, un emblème de la ville. À Bagdad, Anne-Sophie Lomouf.
Une décennie après être tombé aux mains du groupe terroriste État islamique, le minaret de l'emblème mosquée Al-Nouri renaît de ses gravats. Vieux de plus de 850 ans, le minaret penché d'Al-Hadba, piégé puis détruit par Daesh en 2017, a été reconstruit brique après brique à l'identique et je cite « de façon traditionnelle », a précisé la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à Mossoul, pour marquer la phase finale de la reconstruction. Un monument restauré avec le soutien de l'UNESCO qui depuis 5 ans travaille à la réhabilitation du patrimoine de la grande ville du Nord. Après la déroute de l'EI en 2017 par les forces irakiennes, 80% de la vieille ville de Mossoul a été dévastée. Un travail de réhabilitation colossal qui ne serait-ce que pour l'intérieur du minaret a nécessité 96 000 nouvelles briques et 26 000 anciennes pour l'extérieur. En 6 ans, 115 millions de dollars ont été levés par l'UNESCO. Parmi les projets, les églises Al-Tahira et Notre-Dame de l'Heure, ainsi que 124 maisons historiques. Le prix à payer pour insuffler une nouvelle vie. À Bagdad, Anne-Sophie Lemauve pour Radio Vatican.
Partons en Thaïlande où les autorités ont coupé l'électricité à plusieurs zones alimentées en Birmanie, non loin de la frontière. L'objectif est simple, lutter contre des centres d'arnaque en ligne installés dans la région. Les précisions de notre correspondant à Bangkok, Valentin Sebon.
C'est une mesure sans précédent. Ce matin, le gouvernement thaïlandais a coupé l'approvisionnement en électricité dans 5 localités en Birmanie, non loin de sa frontière nord, car certaines régions birmanes limitrophes de la Thaïlande sont bien connues pour héberger des triades chinoises, impliquées dans un vaste réseau d'arnaques en ligne et de traite humaine. Le ministre de la Défense thaïlandais Pumtham Muchayachai a déclaré hier que les centres d'escroquerie en ligne ayant proliféré constituaient une menace pour la sécurité nationale du royaume. Chaque mois, la vente d'électricité dans ces zones birmanes rapportait à la Thaïlande 50 millions de bahts, soit 1,4 million d'euros. Mais c'est peu face aux 550 000 cas d'arnaque signalés au cours des 2 dernières années, qui représentent un montant de 86 milliards de bahts, l'équivalent de 2,4 milliards d'euros. Il est donc probable que ces groupes criminels trouvent d'autres sources d'électricité qu'ils pourront évidemment payer, étant donné les sommes astronomiques tirées de leurs activités crapuleuses. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Et puis l'Inde veut donner un tour de vis migratoire au lendemain du rapatriement de 110 migrants par un avion militaire américain. Notre priorité devrait être une répression sévère de l'immigration clandestine, a expliqué ce matin le ministre indien de l'Intérieur. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera bien entendu à 18h ce soir, heure de Rome. Vous serez accompagné par Marie Duhamel et je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.